parole qui nous vient de Dieu, nous prions pour que le Saint-Esprit nous illumine. Oui, Seigneur, nous savons que sans l'œuvre de ton esprit, cette parole que nous pouvons lire en bon français reste vide de sens. Vide de sens parce qu'elle comporte un message que tu veux imprimer dans nos cœurs. Mais par nous-mêmes, elle reste vide de sens. Alors que ton esprit vienne vraiment lui donner tout son sens. Nous voulons, Seigneur, vivre de cette parole. Nous voulons en mourir pour que, jour après jour, nous puissions grandir. Grandir dans la foi, bien sûr. Grandir dans l'amour pour toi. Amen.
Amen.
Alors nous lirons tout d'abord dans le livre de l'Évangile de Luc, au chapitre 9. À partir du verset 28, Luke 9, 28. Alors il s'agit de la transfiguration. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles, puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Et nous lirons un 2e texte tout de suite. Alors cette fois-ci dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 14, verset 32. Alors Marc, oui. C'est bon, la traduction est faite. Marc 14, verset 32. Alors, ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'en effet, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Voilà, il y aura d'autres lectures pendant la publication. Alors, le 1er texte que nous avons lu, celui de la Transfiguration, c'est le texte du jour, proposé par notamment la Fédération protestante de France. À ceci près que au lieu de le prendre je l'ai pris dans Luc, plutôt que dans Marc, ou c'était peut-être Matthieu, je ne sais plus, parce qu'il y a quelques détails qui m'intéressaient davantage. Mais c'est le même récit, bien sûr. Et puis le deuxième récit que je viens de vous lire, celui de Gethsémané, alors là je l'ai choisi délibérément. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison bien simple que j'ai trouvé que ces deux textes étaient un petit peu, pas indissociables, mais qu'ils avaient beaucoup de points communs, on va voir lesquels, ou alors au contraire, ils avaient des oppositions, un peu comme vous savez, une photographie qu'on a avec son négatif. C'est la même photo, mais elles sont complètement inverses, un peu miroirs l'une de l'autre. Alors, effectivement, point commun entre ces deux textes, ça ne vous a pas échappé, Jésus part à l'écart pour prier avec ses disciples. Et il prend plus particulièrement avec lui, trois disciples, et ce sont les mêmes, ça aussi vous l'avez remarqué, Pierre, Jacques et Jean. Il y a déjà des questions qui sont soulevées avec ça, hein. Pourquoi ces trois disciples? Alors, on peut imaginer toutes sortes de choses, une plus grande intimité peut-être avec Pierre, Jacques et Jean, j'ai peut-être une petite explication qui est un peu personnelle, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Bon, autre point commun dans ces deux textes, il y a ce sommeil qui prend les disciples. Alors à Gethsémané, il n'y a pas de mystère, c'est un sommeil tout à fait naturel, ils sont fatigués, et puis c'est la nuit, Jésus leur demande de s'asseoir, donc vous savez, quand il fait nuit, qu'on est fatigué et qu'on a sommeil, et ben, on s'endort, tout simplement. Quand bien même l'heure est tragique, et quand bien même Jésus leur a demandé de veiller, de prier avec lui. Par contre, dans le récit de la Transfiguration, ce sommeil, il est tout à fait curieux, parce que c'est une sorte de torpeur qui est subie. On le sent dans la façon dont c'est raconté dans le récit. Une torpeur, alors là aussi il y a une explication, c'est un peu, vous savez, la torpeur qui prend Abraham, vous lirez ces histoires dans Genèse, Abraham au moment où il fait un sacrifice, il a divisé les animaux en deux, et au moment où Dieu passe entre les animaux, il doit lutter contre une torpeur, un sommeil qui le prend. Il n'est pas donné plus d'explications, ni dans un texte, ni dans l'autre. Mais il y a un peu cette idée que c'est le moment où va paraître Dieu. Bon, il est dit dans la Bible que nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors est-ce que ce sommeil est une sorte de mort, en fait, symbole de la mort ou d'une sorte d'anesthésie qui permet à l'homme d'entrevoir Dieu mais de ne pas mourir? Je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas le thème du jour. Mais il y a quelque chose d'intéressant à creuser là-dedans. Donc vous voyez des points communs, moi je trouvais que ces deux textes se ressembler par ces points-là. Et puis évidemment, il y a les différences. Et alors là, elles sont énormes. Énormes. Puisque d'un côté, à la Transfiguration, on assiste à la gloire de Jésus. Alors il nous est dit que l'aspect de son visage changea, que son vêtement devint blanc, un blanc éclatant, on dirait presque une pub pour une lessive, hein, un blanc éblouissant. Alors le blanc du vêtement, ça symbolise évidemment la pureté, hein, l'absence totale de péché, la pureté parfaite. Bon, donc la gloire. Jésus apparaît dans toute sa gloire pendant quelques instants, entre autres aux yeux des disciples. Et puis dans votre texte, Gethsémané, c'est exactement le contraire. Jésus apparaît dans un... Alors le mot va peut-être vous choquer un petit peu, mais... Jésus offre un spectacle pitoyable. C'est un au sens vrai du terme, qui inspire la pitié. Il nous est dit dans un autre récit de Gethsémané que Jésus en vient à suer des larmes de sang, tellement qu'il est dans l'angoisse. Mettons-nous deux minutes à la place des disciples. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un aboutissement, après 3 ans d'espoir, 3 ans d'enseignement, un aboutissement, mais affligeant. L'échec complet, à vue humaine, bien sûr. L'échec complet. Jésus qui s'effondre. Il va être arrêté, il va être crucifié. Et alors, voilà un peu l'explication pourquoi Pierre, Jacques et Jean, pourquoi ces trois disciples. Je me suis dit qu'il y a, alors c'est une, comment dire, une petite analyse que je vous livre, qui m'est propre, hein, chacun fait la sienne. Il y a peut-être d'autres explications, je n'ai pas lu d'ouvrage théologique là-dessus. Il est possible que Jésus savait par avance qu'au dernier, dans ses dernières heures, il prendrait avec lui Pierre, Jacques et Jean, et que certainement, ce spectacle affligeant, comme je vous l'ai décrit, serait de nature à leur faire perdre pied. C'est-à-dire qu'ils auraient complètement abandonné, ils seraient partis, ils n'auraient même pas attendu la résurrection, qu'ils n'attendaient pas d'ailleurs. Ça aurait été un naufrage du côté des disciples. Sauf que, ayant vu quelques mois, quelques années, enfin je ne sais pas combien de temps, avant, la transfiguration de Jésus, c'est quelque chose qui va rester marqué éternellement dans leur esprit, à tel point qu'ils vont pouvoir supporter le spectacle affligeant de Gethsémani. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, hein, c'est un petit peu le labyrinthe. Mais vous voyez, il y a l'un qui contrebalance l'autre. Quand les disciples ont vu la transfiguration, ça a dû quand même les marquer, y compris au moment où ils ont assisté à Gethsémani. Et que dire après de Golgotha, la croix, la crucifixion. Voilà, alors je referme la parenthèse. Alors, à partir de là, je me suis posé une question. C'est très bien de démarrer une méditation sur une question. Hein. Finalement, nous adorons Jésus-Christ. J'espère que vous tous qui êtes rassemblés ici, vous êtes des adorateurs de Jésus-Christ. Sinon, ben, il y a du travail, hein, il faut s'y mettre. Et bien, quel Jésus-Christ nous adorons? Est-ce que c'est Jésus-Christ glorieux, illuminé, puissant, magnifique, comme à la transfiguration, tel que les disciples ont pu le voir? Ou bien au contraire, est-ce que c'est Jésus dans l'humilité? Alors, on va laisser le spectacle affligeant, mais l'humilité, parce que là, Jésus, il est même plus que humble, il est humilié dans ses dernières heures, hein, au moment d'être arrêté. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ce Jésus que nous acclamons, que nous louons, est-il le Jésus de la transfiguration, glorieux, ou le Jésus de Gethsémané, humble, soumis à l'aspect misérable? On peut se poser la question. Alors, les réponses, ben, il faut les chercher un petit peu dans la Bible, finalement, c'est plus sûr. Alors j'ai trouvé par exemple un texte qui me semble intéressant. Si j'arrive à le retrouver. Alors c'est dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre. Je l'ai mis un marque-page. Voilà. La deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 16. Alors, il s'agit de Pierre, c'est-à-dire l'un de ceux qui ont assisté à la transfiguration et à Gethsémani. Hein, voilà ce qu'il écrit.
Excuse-moi, Patrick, oui. Vous êtes combien?
Pierre 1.
Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. 16. Chapter 1, 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Alors là, il n'y a aucune ambiguïté. Dans cette épître, Pierre prêche, fait l'évangélisation, puisqu'il essaye d'expliquer l'évangile à ses lecteurs, ceux qui vont lire ses épîtres. Et il prêche à Jésus glorieux. Il témoigne de ce qu'il a vu sur la montagne. Transfiguration, c'est un Jésus glorieux que nous vous prêchons. C'est pas, au début, il dit que ce ne sont pas des fables habilement conçues. Non, on a vu, Il se présente comme témoin, et donc il témoigne d'un Jésus en pleine gloire. Ah, bon, alors donc Jésus, on doit l'adorer tel quel, c'est-à-dire glorieux, n'est-ce pas? Oui, sauf que si je poursuis un petit peu plus loin, ben le verset qui suit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La parole prophétique. Ah, alors Pierre évoque, à l'appui de son témoignage, de son discours, il évoque la parole prophétique. Alors effectivement, dans l'Ancien Testament, on trouve ce qu'on appelle des prophéties messianiques, c'est-à-dire des prophéties qui annoncent Jésus, qui annoncent le Christ. Alors qu'est-ce qu'elles disent? Après tout, puisque Pierre les mentionne, on va les chercher. Alors là, je vous dirai volontiers dans Ésaïe, chapitre 53, vous les connaissez ces paroles, Ésaïe 53, Ésaïe 53. Alors, on va partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton. Alors là, Ésaïe parle de Jésus, bien sûr. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Et je m'arrête là. Bon, là, Ésaïe nous annonce un Messie à l'aspect plus que misérable, méprisé, abandonné des hommes, devant qui on se voile la face. Donc, un Jésus humble, il nous annonce un Christ dans la totale humilité. Alors, c'est ce qui fait qu'on se retrouve au point zéro, là, notre question, quel Jésus nous adorons, n'a toujours pas de réponse. On a d'un côté la gloire, de l'autre côté l'humilité. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que le mieux, c'est encore de voir ce que Jésus en dit lui-même. Alors, de toute façon, si on prend les évangiles, les récits des évangiles, on se rend compte que, effectivement, conformément à la prophétie, aux prophéties messianiques, parce qu'il y en a plusieurs, Jésus a mené une vie extrêmement humble. Vous savez, rien ni personne n'ont empêché Dieu de faire naître Jésus au palais à Jérusalem, plutôt que dans une étable à Bethléem. Rien ni personne n'ont empêché Dieu de lui donner un avenir politique, par exemple. Il aurait pu être roi à la place d'Hérode. Là, pour le coup, il aurait vraiment été roi des Juifs, vraiment au sens humain du terme. Lever une armée, mettre les Romains à la porte, pourquoi pas. Ça aurait pu. Alors donc, c'est délibérément que le Père a fait naître son fils, dès la naissance, je veux dire, dans l'humilité, hein, et lui a donné 3 ans de carrière après, ou même toute sa vie, hein, 33 ans, mais 3 ans de ministère dans l'humilité. Rappelez-vous les enseignements déjà de Jésus sur l'humilité, hein, lorsque ses disciples se disputent pour savoir quel est le plus grand, hein, et bien c'est le serviteur de tous, et lui-même il montre l'exemple jusqu'au dernier moment, puisque vous vous rappelez que avec ses disciples, quelques heures avant d'être arrêté, il leur lave les pieds, geste ultime d'humilité et de service. Donc voilà, Jésus, par sa vie, démontre que les prophéties avaient raison. Il s'inscrit dans l'humilité la plus totale et une humilité délibérément choisie, non pas subie. Bon. Alors décidément, il semblerait que ce soit plutôt un Jésus humble que nous devons adorer. Mais il y a quand même des paroles troublantes. Encore une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Premier verset. Alors, Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, etc. » Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, là. Parce que l'heure est venue. De quelle heure parle-t-il ? Eh bien, il parle de l'heure de son humiliation la plus absolue, son arrestation, son pseudo-procès, sa crucifixion. L'heure est venue je ne parle pas d'humilité, là, je parle d'humiliation profonde. Et là, elle est subie. Hein. Elle est subie, non, elle est choisie aussi. Hein. Jésus l'a délibérément choisie. Mais, encore une fois, l'heure est venue de mon humiliation extrême. Et le mot qui suit, c'est « glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie », etc. Glorifie, alors, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est antinomique, il y a quelque chose qui coince. On est dans l'humilité et en même temps dans la gloire. Eh bien, je crois que la solution, elle est là. C'est-à-dire que nous avons un problème, nous, humains, nous les hommes, nous avons un problème, c'est que nous construisons une sorte, enfin, nous imaginons une opposition absolue entre l'humilité et la gloire. Quelqu'un qui est glorieux, il n'est pas dans l'humilité. Quelqu'un qui est humble, il ne sera jamais glorieux. Enfin, pour résumer. Opposition complète. Or, nous sommes ici dans une situation, finalement, où le Seigneur nous dit, une fois de plus, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que pour Dieu, il n'y a absolument aucune opposition entre gloire et humilité. La preuve, l'heure est venue de souffrir, de subir, de martyr, glorifie ton Fils. Et effectivement, la plus grande victoire de Jésus sur terre, la plus grande victoire, donc la plus grande gloire qui en découle, c'est le moment où il meurt sur la croix. Pour un regard humain, mourir sur la croix, c'est ce qu'il y a de pire, c'est dit dans la Bible. C'est l'infamie totale. C'était un sort réservé aux pires criminels. On ne condamnait pas à la crucifixion à l'époque de Jésus n'importe qui, hein, même des condamnés à mort dans le droit commun. Non, les criminels. Alors c'est, je pense tout de même, impressionnant de voir à quel point nous sommes parfois coincés dans nos schémas, humilité, gloire, mais pour le Seigneur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. La gloire, se conquiert au travers de l'humilité. Regardez dans l'Apocalypse, là je ne vais pas vous lire le texte, mais dans l'Apocalypse, il est question de l'agneau de Dieu. Alors ça, l'agneau de Dieu, c'est Jésus, bien sûr, hein, c'est le Christ. L'agneau représente l'animal qu'on offrait le plus fréquemment en sacrifice. Et en même temps, un animal qu'on pourrait juger très humble, parce qu'au moment du sacrifice, il ne proteste pas, il se laisse faire, il ne se débat pas. Donc là, c'est l'humilité, d'accord ? L'agneau de Dieu représente une image d'humilité. Et on parle de l'agneau de Dieu sur le trône. Alors, excusez-moi, mais le trône, on met forcément quelqu'un de glorieux, on met un roi, on met un empereur sur le trône. Donc vous voyez, l'agneau de Dieu sur le trône. Il y a un chant dans les gènes qui dit à l'agneau sur le trône, apportons la couronne. Oui, la couronne, c'est aussi la gloire. Hein. Il l'a conquise sur la croix, et après, il est le roi des rois, un truc comme ça. Ouais. Il l'a conquise. Comment ? Par l'humilité. Les grands de ce monde qui sont glorieux, petite gloire éphémère, mais qui sont quand même glorieux dans ce monde, et ils arrivent à conquérir la gloire, comment ? Par la force, la violence, par les armées, les guerres, etc. Dans l'histoire, ou bien par des actions d'éclat, maintenant à la télé, quelqu'un qui subjugue les foules, etc. Vous voyez ? Ben, ces gens-là, regardez bien, ils ne sont pas dans l'humilité. Ah, ils sont dans la gloire, momentanément dans la gloire, mais certainement pas dans l'humilité. Jésus, lui, a a conquis la gloire par l'humilité la plus absolue. Alors, à partir de là, ben, évidemment, la méditation, si elle s'arrêtait là, elle serait un petit peu, simplement un petit peu intellectuelle. Mais qu'en est-il pour nous ? Qu'en est-il pour nous ? Bien sûr que Jésus nous enseigne l'humilité. À toutes les pages de l'Évangile, il reprend ses disciples lorsqu'ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Il prend un enfant à un moment donné pour le donner en exemple, en disant « si vous ne redevenez pas comme ces enfants, c'est-à-dire simple, humble, vous pouvez hériter du royaume des cieux, vous ne pouvez rien faire ». C'est un système, l'humilité avec Dieu. Je vais encore lire un texte, aujourd'hui, on est gâtés. Un texte qui nous donne un peu la direction à suivre. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Alors, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Oui. Au chapitre 2, Hébreux 2, on va lire au verset 9. Hébreux 2, verset 9. Hébreux. Number 2. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors là, vous êtes d'accord qu'on est en plein dans notre sujet. Je répète, nous le contemplons, ce Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, la mort infâme. Oui, on est vraiment dans l'opposition absolue. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a coûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Bon. Mais il y a quelque chose qui suit, un petit peu plus loin. Le verset qui suit, donc verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Alors, je reprends le verset, il est un peu compliqué. Celui qui sanctifie le Père et ceux qui sont... Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Ah, alors là, on va pouvoir avancer parce que ce texte nous explique que parce que nous sommes, nous aussi, enfants de Dieu. Alors, Jésus, lui, bien sûr, a un registre supérieur, il est fils de Dieu unique, mais nous sommes aussi enfants de Dieu. À ce titre, Jésus peut nous appeler frères et sœurs, bien sûr. Alors, ce qui veut dire que, là, c'est moi qui fais la déduction, si nous sommes frères et sœurs de Jésus, eh bien, le chemin qu'il a tracé, il est tracé pour nous. À nous, donc, de rechercher, tenez-vous bien, de rechercher la gloire, de rechercher la couronne, les honneurs. Comment ? Par l'humilité. Et Jésus l'a dit, le plus grand parmi vous sera celui qui sera le serviteur des autres. Par l'humilité, Jésus nous a ouvert la voie, il n'y a plus qu'à se couler dans le moule. Par l'humilité, nous pouvons conquérir la gloire. Alors, bien sûr, pas la gloire du Christ, mais la gloire dans le Père et cette gloire que nous vivrons pour l'éternité dans son royaume. Mais je dis bien par l'humilité. Toute la difficulté est là, par l'humilité. Alors, pour ce qui est du manque d'humilité, moi je suis un champion. Hein. Tout le monde en parlait, n'est-ce pas, mon épouse? Comme disait l'autre, ouais, moi pour la modestie, je crains personne. Bon. Oui, non mais c'est ça en fait, hein. Le fin mot de l'histoire, c'est que l'humilité n'est pas quelque chose de naturel dans l'homme. C'est grâce au Saint-Esprit, grâce à la bénédiction et grâce à cette voie que nous a ouverte Jésus, eh bien, nous savons que c'est cette humilité qui nous ouvre toute grande, les portes de la gloire en Jésus. Amen.